France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors juste au départ, une petite explication. Alors nos invités de ce soir m'ont demandé pourquoi j'avais une mug Spider-Man. En fait voilà, je buvais mon eau minérale dans une mug Spider-Man. La raison est assez simple en fait, puisque nous avons appris que le comédien américain Mark Ruffalo soutenait Jean-Luc Mélenchon. Or, Mark Ruffalo joue dans Avengers, le personnage de Hulk. Alors Hulk soutenant Mélenchon, si ce dernier ne passe pas au premier tour dimanche prochain, on peut craindre la colère du géant de jade. On ne sait pas ce qui peut se passer, donc on est prévenu comme ça. On peut nous sauver avec Spider-Man. Je sais que c'est une mug, mais on ne sait jamais. On se prémunit comme ça. Hein. Voilà, on se protège. En tout cas, eux, ils tiennent le coup. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Maude Guillaumin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes collaboratrice, contributrice, pardon, à Atlantico et vous venez de sortir un livre intitulé Les 4 jours qui ont changé sa vie. Ça s'appelle Jackie, pardon, Les 4 jours qui ont changé sa vie aux éditions Archi. Éric Métou, également de l'Express, bonsoir.
Bonsoir.
Le communicant Franck Tapiero, bonsoir.
Bonsoir.
Et dans le cadre de la campagne officielle, puisqu'on commence à voir toute la collecte maintenant, nous recevons ce soir Jean-Pierre Mercier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Nathalie Arthaud, candidat soutenu par Lutte Ouvrière. Et ce soir, nous parlerons d'environnement, d'antisystème et d'indécis qui sont même indécis sur l'indécision. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. 24 heures après l'arrestation à Marseille de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat imminent contre un candidat à la présidentielle, la question de la sécurité des prétendants à l'Élysée se pose des questions. Comment en faire plus? Doit-on en faire plus? Le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé qu'il y aura 50 000 policiers et gendarmes pour protéger les 69 000 bureaux de vote. Mais le thème de la sécurité et du terrorisme pourrait s'imposer en cette fin de campagne. En tout cas, certaines en profitent et n'hésitent pas à surfer sur cette tendance, comme ce matin, Marine Le Pen.
Tous les étrangers qui sont fichés ou qui sont condamnés ou qui ont été condamnés, quel que soit le délit, vous m'entendez bien, doivent rentrer chez eux. Voilà.
Est-ce que Kouachi avait été condamné?
Parce que non, mais Kouachi, oui, Kouachi.
Non. Non.
Non, mais vous plaisantez, j'espère.
Kouachi, le frère n'a jamais été condamné.
D'accord, mais son frère avait été condamné en 2008 à 3 ans de prison.
Pas de casier judiciaire.
À 3 ans de prison pour avoir participé à la filière des buts de Chaumont, qui était une filière qui avait entre autres tenté de faire évader un terroriste du GIA.
Voilà, Marine Le Pen, interviewée par Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV. Alors, on le sait que la sécurité des candidats est assurée par le SDLP, le service de la protection, géré par le ministre de l'Intérieur. Il y a deux candidats qui la refusent, c'est Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Jean-Pierre Mercier, pourquoi vous la refusez, cette protection?
Parce que les militants de Lutte Ouvrière assurent eux-mêmes la sécurité de Nathalie Arthaud, tout simplement, qu'on n'a pas besoin de la police pour ça.
D'accord.
On fait plus confiance aux militants de Lutte Ouvrière qu'à la police.
Ah oui, pourquoi?
Oh là, ça serait un long débat,
oui,
mais on préfère gérer ça nous-mêmes.
D'accord, et quand vous avez vu ça, il y a forcément cette arrestation, vous-même aujourd'hui, est-ce que vous êtes dit, voilà, la campagne se tend? Est-ce que d'ailleurs vous aviez été prévenu des risques qu'un candidat pouvait courir autour de personnes qui pourraient commettre un attentat
du tout? Non, nous, on n'a pas du tout été prévenu. Par contre, oui, on s'est dit tout de suite que certains politiciens, comme Monsieur Fillon, comme Marine Le Pen, vont pouvoir en profiter. Et puis ça va servir de dérivatif, évidemment, plutôt que de parler des vrais problèmes, des problèmes de fond, des programmes, des attaques des uns et des autres contre le monde du travail qui se prépare. On va parler de la tension, du terrorisme, etc., alors qu'il n'y a même pas eu d'attentat encore.
Alors, Franck Tapiero, justement, votre avis, cette affaire peut-elle influencer, peut-elle avoir finalement une influence sur le vote, sur une décision aujourd'hui des citoyens français?
Ce qui est curieux, c'est qu'il a fallu qu'une menace sur les candidats pour qu'on parle de sécurité dans cette campagne. C'est quand même incroyable. Dans tous les débats, dans tous les meetings, on attendait à ce qu'on parle de sécurité, de terrorisme. Finalement, on a été extrêmement, extrêmement léger là-dessus. Il y avait de temps en temps quelques petites saillies contre l'état d'urgence, mais vraiment, c'était quelque chose de très léger. Et là, il y a une menace d'attentat, contre un ou deux candidats. Et là, tout d'un coup, ça devient un sujet. Finalement, ça fait un peu pchit. Il suffit de voir ce que les gens se disent finalement depuis quelques jours. Je pense que c'est beaucoup de récup pour pas grand-chose, beaucoup de bruit pour rien. Je pense non, je pense malheureusement parce que j'aurais aimé moi que la sécurité fasse partie des sujets de cette campagne, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas parce qu'ils sont en potentiellement agressés ou agressables que ça va devenir un sujet. Donc est-ce que c'est dramatique? Oui, parce que je pense qu'il y a réellement un problème là-dessus.
Oui, Mondi.
Alors on va pouvoir voir déjà si par exemple là à la place de la République, il y a vraiment plus de monde
ou pas. C'est le cas, ça a été
renforcé. Il y a quand même du monde, donc ça prouve en effet que les gens, ils l'attendaient ce sujet, je pense. Mais dire que c'était pas un sujet, je pense qu'au contraire, quelqu'un comme Marine Le Pen, elle l'attendait. Et la preuve, c'est que dès Bercy, elle a dit avec moi, il n'y aurait pas eu de Mohamed Merah.
C'était au Zénith, voilà. Dimanche,
au Zénith.
C'est de la récup.
C'est de la récup, certes, mais c'était quand même vraiment un vrai sujet attendu. Et c'est vrai qu'on peut même se demander pourquoi ça n'a pas été plus utilisé. Alors c'est vrai que par exemple, quelqu'un comme Macron, oui, ça ne va pas du tout lui être utile, puisque en effet, là-dessus, on a bien vu dans l'émission politique. Qu'il était très léger sur un sujet comme ça. Une Marine Le Pen, évidemment, elle rebondit là-dessus. Je suis même étonnée qu'elle ait été si mauvaise ce matin.
Alors, complètement. Mais c'est à cause de ça, justement. C'est parce que le sujet n'a pas de prise. Et je pense déjà qu'elle est très mauvaise dans cette campagne. Elle est encore plus mauvaise sur un sujet qui n'a pas un véritable ancrage, en fait.
Éric Métou, hier soir, Jean-Luc Mélenchon a adressé un message de soutien personnel à Emmanuel Macron, François Fillon, Marine Le Pen. Finalement, c'est compréhensible, ça?
C'est sport, c'est bien joué. Non, c'est bien joué. En plus, c'est un beau geste. Ils l'ont fait savoir, donc c'était plutôt pas mal. Je suis pas d'accord avec vous quand vous dites que Macron, il est léger sur la sécurité. Il est complexe sur la sécurité. C'est le seul qui est un petit peu complexe. Enfin, un des seuls qui est un petit peu complexe sur la sécurité. Alors effectivement, la complexité sur la sécurité, plutôt que de dire que si on avait arrêté Mohamed Merah à la frontière, effectivement, il serait pas rentré. Ce qui est facile à dire.
C'est quand même le seul
candidat qui s'est posé la question à un moment de savoir pourquoi est-ce que dans nos banlieues et dans nos villes, on avait des gamins de 18 ans dont le seul idéal, c'était de prendre une Kalachnikov et d'aller tirer dans une salle de concert. Enfin, je veux dire, la vraie question, la seule question, elle est là. Et lui, la pose. Et je suis pas macroniste plus que ça, mais je pense que plutôt que des solutions toutes faites et inutiles comme celle de Marine Le Pen, je préfère 100 fois celle d'Emmanuel Macron.
Rapidement, Jean-Pierre Mercier, je sais que hier, Nathalie Arthaud sur France 5, elle a dit justement Jean-Luc Mélenchon, moi, je comprends pas trop, j'ai pas adressé de message particulier, finalement, à mes concurrents.
Bien sûr, il n'y a pas eu d'attentat. On est solidaire de toutes les victimes d'attentats, que ça soit en France ou que ça soit en Syrie ou dans les pays qui sont victimes de terrorisme d'État aussi. Je pense au peuple syrien, en Afrique aussi. Mais être solidaire de Marine Le Pen, de François Fillon, on va pas aller jusque là, ça c'est évident.
Alors dans un instant, on va en parler justement de François Fillon. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
Le parquet requiert 1 an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité contre Thomas Thévenoud. Procès de l'ancien secrétaire d'État au commerce extérieur et de son épouse. Il s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le couple est jugé pour ne pas avoir déclaré ses revenus en 2012 et avoir rempli sa déclaration en retard pendant 4 années. 6 mois de prison requis contre l'épouse Thévenoud. À Marseille, plusieurs centaines de manifestants protestent contre le meeting de Marine Le Pen ce soir dans la cité phocéenne. Rassemblés sous la bannière de plusieurs syndicats, les participants à cette manifestation ont dénoncé une provocation de la candidate d'extrême droite de venir dans une ville de forte immigration. Ils étaient rassemblés tout à l'heure en haut de la Canebière, à plus de 3 km de la salle où se déroule le meeting. Le candidat socialiste Benoît Hamon est lui en meeting place de la République à Paris ce soir. Les services de renseignement français vont apporter la preuve que le régime syrien a bien organisé l'attaque chimique de Khan Cheikhoun, annonce de Jean-Marc Ayrault ce soir dans Questions d'info diffusée sur LCP en partenariat avec France Info. Ces preuves seront apportées dans les prochains jours, ajoute le ministre des Affaires étrangères. Et puis c'est Lille qui défendra la candidature de la France pour accueillir l'Agence européenne du médicament. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a fait son choix parmi 8 villes françaises qui avaient postulé pour héberger l'agence aujourd'hui basée à Londres, mais qui ne pourra pas rester au Royaume-Uni après le Brexit.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, dernier jour de campagne, hein, puisque le vote, c'est dimanche. Tous les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8h. Et donc, pendant ce soir, la campagne continue. Ce soir, il y a beaucoup de meetings. Et aujourd'hui, on a frôlé la catastrophe, hein, puisqu'on a failli ne jamais avoir 2 photos. Alain Juppé, François Fillon. On vit quand même dans une sale époque. Tout était pourtant bien organisé. Les 2 rivaux de la primaire devaient visiter l'école 42, l'établissement de Xavier Niel. Et au débotté dans les couloirs, Alain devait dire à François « Ah bah t'es là toi aussi !» Et bah finalement, par peur des banderoles et autres initiatives rappelant les affaires qui le poursuivent, François Fillon, eh bien, a déserté l'école 42 et les deux hommes ont visité le siège de Deezer. La photo a pu avoir lieu et tout le monde est vraiment très soulagé, comme Nathalie Kosciusko-Morizet.
C'est important, c'est bien, en cette fin de campagne, qu'il y ait un message de rassemblement. Et c'est toujours bien, ce qui est important, c'est que le rassemblement se fasse, vous savez.
À 4 jours du premier tour.
Avant le premier tour, c'est ça qui compte.
Nathalie Kosciusko-Morizet, ce matin, donc, au rassemblement. Donc, enfin, voilà, ça y est, la fameuse photo de soutien à Alain Juppé-François Fillon. Maud Guillaumin, c'était important pour le candidat François Fillon d'avoir cette poignée de main.
Elle est presque ridicule. Elle est presque ridicule, surtout quand on se rappelle, après la primaire, de cette poignée de main qui avait été si glaciale de la part d'Alain Juppé. Vraiment, les deux images, je trouve, se superposent et ça en devient ridicule. De la même manière, c'est vrai que j'ai trouvé que l'équipe de Fillon avait peu utilisé finalement la vidéo de Nicolas Sarkozy, oui, qu'il a tout de même faite.
Sur Facebook, en effet.
Sur Facebook. Bah, mine de rien, quand même, là, pour le coup, il s'investit un peu. Hein. J'ai appris qu'il n'avait même pas été remercié. Non, ça prouve que quand même, c'est assez étonnant. Et là encore, bah, comme c'est presque ridicule qu'en plus, il y a eu ce problème avec l'école 42 qu'on va finalement chez Deezer, qui est encore un couac, en fait. Hein. Eh bien, je pense que cet élan que ça doit apporter n'a pas réussi. Enfin, personnellement, pour moi, ça donne pas l'élan. Quoi.
Alors, en plus, ce qui est terrible, c'est que chez Deezer, il y a eu plein de photos sur les réseaux sociaux où les gens se sont amusés à mettre des choses sur Mélenchon ou sur François Fillon. Éric Métou, pour vous, voilà, cette rencontre, il l'attendait peut-être François Fillon pour dire voilà, je réunis toute la droite.
Et, c'est tellement artificiel et ça sent tellement l'artifice que ça n'a plus aucune valeur. Et puis là, il réunit des gens qui se détestent tellement, dont on sait pertinemment que si François Fillon passe pas le premier tour, ils vont lui planter tous ensemble, allègrement, des couteaux dans le dos et puis qu'ils vont s'en débarrasser aussi vite qu'aujourd'hui ils ont l'air de le soutenir. Oui, c'est ridicule, ouais, c'est assez ridicule. Et je pense que c'est pas un très bon coup. Je vois pas très bien ce qu'ils sont allés chercher là, quoi. Qui est dupe?
C'est ça, ouais, Franck Tapiro.
Mais pendant des années, on n'arrête pas de dire que justement il y a un désamour des Français par rapport aux politiques. Mais il y a un désamour par rapport aux politiques, faut pas chercher très loin les causes. Là, il y en a une très belle. C'est le manque de sincérité absolue. Si on croit vraiment que les Français, surtout les électeurs de droite, vont mordre à l'hameçon, c'est même pas qu'on les prend pour des cons, c'est qu'on les considère absolument pas. C'est qu'on ne considère pas vraiment ce qu'ils sentent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent des politiques. Il n'y a que de la sincérité qui passe aujourd'hui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit à droite, arriver à 4 jours du scrutin et faire une fausse photo, parce qu'on dirait une photo, c'est même pas une vidéo. Ça. Regardez, quand il lui serre la main, il a même du mal à le regarder. Donc il y a aussi le langage du corps. On sent qu'il est contraint et forcé de le faire. Pas de sincérité, donc les gens ne mordront pas, même si la droite s'auto-persuade qu'elle n'est plus la droite la plus bête du monde. Pour moi, c'est peut-être la droite qui est dans le déni le plus absolu.
Maud Guillaume, hein.
Oui, bah, c'est vrai que, évidemment, on sent ce froid, et puis en plus, c'est monté d'un cran avec l'arrivée de Sens commun dans l'affaire, où on sait très bien que les pro-Juppé et Alain Juppé sont vraiment très opposés à leur arrivée. Donc le froid était encore plus froid, entre guillemets, que la semaine dernière. Donc c'est encore plus ridicule.
Jean-Pierre Mercier, comment vous le jugez, alors vous, François Fillon, est-ce que finalement, vous, j'imagine bien sûr son programme, bien sûr, ne vous convient pas du tout, mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui, est-ce qu'il a réussi à votre avis à reparler de son programme malgré ses affaires aujourd'hui à...
Je sais pas. En tout cas, moi j'ai partagé l'écœurement des travailleurs, de la population, de toutes ces affaires, toutes ces casseroles. Enfin, c'était vraiment écœurant qu'on puisse taper dans la caisse comme ça aussi allègrement, alors qu'on nous demande de nous serrer la ceinture. Si jamais il était élu président de la République, je sais pas comment il ferait pour demander de nouveaux sacrifices, de nouveaux efforts. Les caisses sont vides. Vous comprenez. Il faut travailler plus. Il faut travailler plus longtemps. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de nous
préparer. Est-ce que vous regrettez pas finalement que ce débat, finalement, vraiment sur son programme, on en parlait beaucoup au moment de la primaire de droite, son programme, 500 000 fonctionnaires, un choc plus libéral comme il le souhaite, il parle même de révolution libérale, finalement il n'a pas vraiment eu lieu ?
Oui, il a pas vraiment eu lieu, ça c'est vrai, sur le fond des programmes des uns et des autres, il n'y a pas eu de débat. Maintenant, je suis, moi, convaincu que le programme de François Fillon, il est bien rentré dans la tête des travailleurs, des chômeurs, des retraités, de ceux qui n'ont que leur salaire, que leur allocation ou leur pension de retraite pour vivre. Oui, il nous promet 500 000 fonctionnaires en moins, c'est-à-dire du chômage en plus. Il nous promet de travailler plus longtemps, de travailler plus en étant moins payé, tout ça pour que toujours les mêmes grandes entreprises, ces entreprises du CAC 40, puissent faire encore plus de bénéfices. Bah, écoutez, c'est une attaque en règle qui se prépare contre le monde du travail. Oui, ça, je pense que c'est extrêmement clair chez Fillon.
Maud Guillaumin.
Je répondis juste par rapport au programme de Fillon. À contrario, les électeurs de droite vous diront au contraire que eux, ce qu'ils défendent, ce n'est pas François Fillon, parce qu'en effet, certains ont quand même été dérangés par ce qui s'est passé, mais qu'ils défendent un programme, et c'est pour ce programme qu'ils vont voter.
C'est ça, c'est la fameuse
fois. Mais c'est quand même tenu, c'est quand même défendu, porté par quelqu'un qui a volé, par quelqu'un qui va être
mis en
prison.
Je ne vais pas défendre François Fillon.
Comprenez, juste 30 secondes quand même. Quand on est salarié dans une entreprise, il suffit qu'on fasse une faute professionnelle, un écart sur un contrôle de qualité, ou être arrivé en retard quand on est intérimaire, ou simplement un arrêt maladie ou un accident du travail, on est viré sur le champ. La sanction, elle tombe cash.
Je ne suis ni avocat de François Fillon, mais sincèrement... Il n'a rien volé pour l'instant. Il y a une présomption d'innocence. Oui. Il y a des accusations. Non, mais je suis sérieux. On peut pas dire.
Il y a une mise en examen. La justice travaille.
Ok, il y a une mise en examen. Ok, voilà. Très bien. Mais pour l'instant, on peut pas dire qu'il a volé.
Qu'il a tapé dans la caisse.
On peut pas dire ça. On peut dire il y a une forte présomption. On va dire, mais il y a surtout une présomption d'innocence. Encore une fois, je suis pas son avocat, mais on peut pas accuser les gens comme ça.
Moi, je le dis et je l'assume. Mais encore avec cette petite précision, ce qui nous a fait le plus mal, c'est pas ses costumes à 13 000 euros. C'est pas ça. C'est pas que sa femme, elle a été payée comme assistante parlementaire et qu'elle n'a pas travaillé, que ses gamins, c'est exactement pareil. Ce qui nous a fait le plus mal, c'est sa politique quand il était Premier ministre, où franchement, il nous a fait reculer des années et des années en arrière, à la fois sur la retraite, sur le chômage, sur les impôts, sur tout ce qu'on a dû payer et sacrifier. Et Hollande a emboîté le pas à la politique de François Fillon. C'est ça qui nous a fait le plus mal.
Une chose, Éric Métou, on voit en ce moment aussi, nous sommes à 4 jours du premier tour, là, il y a François Fillon qui ferraille contre les journalistes. On a vu l'histoire avec Jean-Jacques Bourdin. Aujourd'hui, c'est le journal Le Monde, qui a refusé de publier donc l'interview du candidat de la droite, car les proches de François Fillon refusaient qu'il pose des questions sur les affaires.
Oui, c'est Fillon qui l'a pas voulu. Exactement, voilà, c'est
ça.
Monde, ouais.
Et donc ça paraît quand même aujourd'hui quand même.
De toute façon, cette campagne, elle tourne en boucle autour du même sujet. Hein, c'est-à-dire qu'il fait pas bon à être journaliste aujourd'hui. Il fait pas bon à être journaliste pour aller dans les meetings. Il fait pas bon à être journaliste quand on veut poser des questions. Il fait pas bon poser des questions dérangeantes, parce que c'est quoi le fond du problème? C'est pas tellement que Fillon veut pas répondre aux questions sur son programme. Ça, il est tout à fait carré là-dessus. Il veut pas répondre sur les affaires. Et je vois pas un journaliste aller interviewer aujourd'hui François Fillon et pas lui poser une question sur ses costumes, sur le travail a priori un petit peu fictif de Pénélope. C'est pas jouable. Enfin, c'est notre métier de faire ça. Et aujourd'hui, ce que fait Fillon, ce que fait Marine Le Pen, ce que font tous les, ce que fait aussi Mélenchon par ailleurs, c'est de refuser de répondre à des questions. Donc, ils nous empêchent de faire notre travail. Et ça, il faut le dire. Et c'est un vrai problème démocratique aujourd'hui.
Allez, l'info à 20h20, Pierre-Yves Bonneau.
Le procès des fausses victimes de l'attentat de Nice, un couple de Canois condamné à 4 et 6 ans de prison ferme. L'homme de 36 ans et la femme de 29 ans étaient jugés devant le tribunal de Grasse pour avoir tenté d'escroquer le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Pour la deuxième fois, après le 13 novembre 2015, ils avaient reçu 60 000 euros du fonds alors qu'ils n'étaient même pas sur les lieux des attentats. Confirmation ce soir sur France Info d'Éric Coquerel, coordinateur du parti de gauche. Jean-Luc Mélenchon participera bien demain à l'émission politique de France 2. À 3 jours du premier tour, le doute subsistait jusqu'alors. Les 11 candidats se succéderont pour 15 minutes d'entretien individuel sur le plateau de nos confrères demain. Émission à suivre à la télévision sur France Info, canal 27. Les négociations réelles sur le Brexit commenceront après les législatives anticipées en Grande-Bretagne, selon le président de la Commission, Jean-Claude Juncker. Le scrutin du 8 juin, voulu par la première ministre britannique, Theresa May, a été validé quasiment à l'unanimité par la Chambre des communes à Londres. Et puis exclusion avec sursis de toute compétition européenne pour l'Olympique lyonnais et le Beşiktaş d'Istanbul après les incidents de la semaine dernière au Parc OL, sanction infligée ce soir par l'UEFA. Avec un sursis de 2 ans, elle ne s'appliquera donc cette sanction qu'en cas de nouveau débordement. Une décision équitable selon Jean-Michel Aulas, président de l'OL, scandaleuse selon le club de Beşiktaş.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Maud Guillaumin, journaliste politique, contributrice à Atlantico, également Éric Métou de L'Express, le communicant Franck Tapiro et Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Nathalie Arthaud, candidate de Lutte Ouvrière. Alors pendant que nous faisons cette belle émission, eh bien place de la République à Paris, il y a un candidat qui tient meeting. Il est tombé de vélo récemment, Benoît Hamon, et il semble plus savoir comment trop pédaler. Donc il lâche tout ce soir puisqu'il investit donc la place de la République. peu comme Jean-Luc Mélenchon, en fait. C'est marrant, le 19 mars dernier. Franck Tapiro, forcément, on ne peut penser qu'il y a une comparaison entre les deux candidats qui vraiment se mènent un combat. Ben, aujourd'hui, on l'a vu, Mélenchon semble l'avoir gagné par KO. Il va forcément y avoir une comparaison d'image ce soir, savoir qui a le mieux rempli la place de la République.
Oui, mais enfin, quand même, à mon part de très très loin, moi je l'appelle maintenant, excusez-moi du jeu de mots, je l'appelle Aval.
D'accord, très bien.
Oui,
c'est pas mal.
C'est montagnard, je suis désolé.
Non, mais vous avez
droit. Voilà. Voilà, mais... Oui, parce que Aval, parce qu'il a tellement dévalé, mais vraiment dévalé, mais c'est tellement écroulé, mais vraiment sur lui-même, sur sa base. Et puis, je pense que il n'y a pas la... On peut choisir le même lieu, et on le voit dans de grandes scènes de spectacle. Vous savez, quand vous louez l'Olympia, vous ne faites pas forcément un succès à chaque fois. Donc, c'est pas parce qu'on est au même endroit qu'on arrive à créer d'abord le même engouement, susciter la même énergie. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des énergies positives, et Mélenchon en a une. Voilà, il a une embellie, on appelle ça une embellie. Est-ce qu'elle se transformera en embellie présidentielle ou de scrutin? Moi, je ne le crois pas, mais on verra dimanche. Hamon, lui, c'est autre chose. Il essaie de cristalliser ce qu'il peut, rassembler ce qu'il peut. Taubira, qui, en général, est faiseuse ou défaiseuse de roi, n'était pas là parce qu'elle avait piscine.
Elle
avait piscine. Et la maire de Paris, elle n'était pas là parce qu'elle avait piscine aussi. Donc, chacun avait des bonnes excuses de ne pas être sur la photo. Donc, c'est terrible. Non, Hamon n'est plus sauvable. Maintenant, il faut qu'il sauve le PS parce que, espérons-moi qu'il sera remboursé de son frais de campagne.
Voilà. Alors, Maud Guillaumin, comment, justement, aujourd'hui, quand on voit Benoît Hamon, qu'est-ce qu'il cherche avec ce meeting, il joue son va-tout, là. Est-ce que ça peut remobiliser? Bon, il va y avoir des concerts, des discussions. Est-ce que ça peut remobiliser finalement un électorat socialiste perturbé?
Alors, c'est vrai que pour lui, ça va être difficile et on voit bien que son équipe de campagne déjà semble pas très positive, étant donné que la comparaison par rapport à Mélenchon, on dit tout de suite, attention, Mélenchon, c'était un samedi. Donc bon,
c'est vrai.
Sauf que l'excuse, bon, ça montre à quel point ils sont vraiment stressés. Oui, remobiliser, c'est sûr. Najat Vallaud-Belkacem a bien dit que maintenant, le but, c'était d'arriver à un score à deux chiffres, donc à 10%. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ne pas faire les 5% de Gaston Defer des années 60, voilà. Donc voilà où on en est. On sait très bien que c'est une catastrophe et le but, c'est de sauver le PS, s'il est encore sauvable.
Jean-Pierre, merci. Moi, je voulais justement avoir votre point de vue, finalement, aujourd'hui, de lutte ouvrière. On sait que vous n'entendez pas trop avec le Parti Socialiste, mais comment vous la voyez, vous, justement, cette chute de Benoît Hamon, ce PS qui est en tenaille entre aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron? Vous vous en satisfaisez? Vous vous dites, tiens, c'est ce qui devait arriver?
Écoutez, c'est une chute tout à fait logique et puis qui peut s'expliquer très facilement. C'est que Benoît Hamon, il a beau s'écarter le plus possible de François Hollande, il porte quand même le bilan de ce quinquennat qui a été des attaques incessantes. Alors pour le coup, ça a été des promesses qui n'ont pas du tout été tenues.
Malgré son côté frondeur, vous dites, vous
il est... Oui, alors le côté frondeur, moi je me souviens de la loi El Khomri, on était dans la rue, on manifestait, on faisait grève. Eux, ils ont même pas eu le courage de voter la motion de censure. Enfin, ils ont strictement rien fait. Il a cautionné pendant des années toute cette politique anti-ouvrière. Aujourd'hui, il le paye cash. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais pas pleurer sur le Parti Socialiste et sur toute cette politique vraiment pro-patronale qu'ils ont fait pendant toutes ces années. Moi, je me souviens de Mitterrand, je me souviens de Jospin, je veux me souvenir de Hollande. Et à chaque fois, ça a été très cuisant pour le monde du travail. Voilà. Et donc, il faut absolument que maintenant, les travailleurs comprennent qu'on peut pas avoir... Il faut arrêter d'avoir des illusions sur un sauveur suprême qui pourrait changer la vie des travailleurs simplement avec le bulletin de vote, une bonne Assemblée nationale et un bon gouvernement. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. C'est par les manifestations, par les occupations d'usines, en bloquant l'économie, en faisant grève, qu'on pourra imposer un vrai changement dans ce pays pour les travailleurs.
D'accord. Alors, juste une petite chose, parce que je sais qu'on a une publicité derrière, Éric Métou, rapidement. Dans le discours de Jean-Pierre Mercier, on voit bien quand même, là, justement, la fracture du PS avec aussi le monde ouvrier.
Oui, alors la fracture du PS avec le monde ouvrier, mais je pense un peu la fracture de lutte ouvrière avec le monde ouvrier. C'est-à-dire que le monde ouvrier, aujourd'hui, il ne vote pas pour Nathalie Arthaud, il vote pour Marine Le Pen.
On va justement parler dans un instant du programme de lutte ouvrière. On va parler également des indécis qui vont peut-être faire ou défaire le roi ou la reine de cette présidentielle. Voilà la suite du programme à venir dans les informés de France Info.
Et si appeler depuis et vers l'étranger ne coûtait pas plus cher?
Et moi, avec mon forfait Pro Orange, que j'appelle Londres depuis le bureau ou mon équipe depuis Londres, ça ne me coûte pas plus cher.
Ah, ok.
Bah, moi, en plus, dans mon forfait pro Orange, j'ai le Brésil, le Maroc...
Enfin, peut-être, mais moi, en plus, je peux utiliser mes 40 gigas partout en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Et moi, dans les DOM.
Avec le forfait Performance Pro Intense Travel, votre forfait Orange devient aussi international que votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Arnaud, j'ai bien réfléchi. J'ai décidé de changer de vie. Je vais m'installer dans le Larzac, me couper de tout, revenir aux choses essentielles, à la nature.
En avril, pendant l'incroyable mois Beansport, avec le classico Real Barça, les playoffs NBA, les demi-finales de Coupe d'Europe de rugby, le PSG en Ligue 1. Ouais, vas-y.
Oui, non mais c'est juste un projet. Hein.
C'est ça, la génération Beansport. En avril, vivez l'incroyable mois Bean en direct sur Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com.
Chaque jour,
vous êtes 4 758 000 auditeurs à écouter France Info.
Le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Union européenne. Il s'agit d'un moment historique. Et il n'y aura pas de retour en arrière.
Bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés et sur le canal 27 de la TNT.
C'est mon époque, votre rendez-vous conso avec Sophie Auvigne. De nombreux parcs s'offrent cette année un lifting.
Honneur aux aînés, on commence par les 40 bougies du Puy du Fou.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo, avec Gauthier. Fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Ensoleillé mais froid demain, le matin il fera 5 à 8 degrés près de la Méditerranée, 1 à 5 vers l'Atlantique, mais seulement moins 4 à 1 degré ailleurs. Côté ciel, pas grand chose à signaler, du bleu, un beau soleil pour tout le monde, un léger vent de nord-est tout de même. Le matin il restera quelques ondées vers le Var, la Côte d'Azur. Sur la Corse, une ondée le matin, des averses parfois orageuses l'après-midi et pourquoi pas un peu de neige au-dessus de 1000 mètres. Le vent sera moins fort dans le sud-est, 70 km à l'heure pour le Mistral. Dans l'après-midi, quelques nuages se développeront en montagne sans conséquence. Et puis en fin de journée, un ciel plus nuageux s'avancera vers le Nord-Pas-de-Calais. Quant au thermomètre, il affichera 10 à 16 degrés sur la plupart des régions, 12 à Strasbourg, 13 à Lille et Aurillac, 15 à Paris, 16 à Nantes et Grenoble, encore 16 à 19 de l'Aquitaine au sud-est, 18 degrés à Bordeaux, Toulon et 19 à Montpellier.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Noémie Bonin, bonsoir.
Bonsoir à tous. Leur indécence choque beaucoup de monde. Deux personnes originaires de Cannes ont été condamnées ce soir à 4 et 6 ans de prison. Ce couple s'est fait passer pour des victimes de l'attentat du 14 juillet dernier à Nice pour récupérer les indemnités. Autre procès en cours, celui de Thomas Thévenoud, poursuivi avec son épouse pour fraude fiscale. Un an de prison avec sursis a été requis, avec aussi 5 ans d'inéligibilité. Thomas Thévenoud a été secrétaire d'État chargé du commerce extérieur pendant 9 jours avant sa démission. 20 000 personnes rassemblées ce soir, place de la République à Paris, pour soutenir Benoît Hamon, chiffre donné par les organisateurs. La pire ennemie de la République, c'est l'apathie des citoyens eux-mêmes, a notamment déclaré le candidat socialiste. Emmanuel Macron, lui, s'affiche aux côtés du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Le candidat du Mouvement En Marche est en meeting à Nantes. Du côté de Marseille, plusieurs centaines de manifestants protestent contre le meeting de Marine Le Pen qui vient de débuter. Le gouvernement de Bachar el-Assad est responsable de l'attaque chimique sur un village syrien il y a 2 semaines. C'est ce qu'assure Jean-Marc. Le ministre des Affaires étrangères promet même des preuves dans les prochains jours.
Ma conviction, c'est que c'est le régime, et c'est la conviction aussi de nos services, qui a la responsabilité
de ces attaques. Oui. Appuyée par des documents.
Et il y a une enquête qui est en cours. Alors, il y a l'OIAC dont je viens de parler.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous disposez
qui fait son enquête, et en ce qui concerne, les services de renseignement français et les renseignements militaires. C'est une question de jours, mais nous apporterons la preuve qu'effectivement, le régime a bien organisé ses frappes avec des armes chimiques.
Vous êtes formel.
J'exprime une conviction.
Monsieur Hérault.
Dans quelques jours, je pourrai vous apporter des preuves.
Jean-Marc Hérault, invité de l'émission Question d'info sur France Info. Il y aura bien des élections anticipées en Grande-Bretagne. Le Parlement britannique approuve à une écrasante majorité le projet de la Première ministre. Theresa May veut asseoir sa majorité avant les négociations consultation sur le Brexit. Le scrutin est prévu le 8 juin. Réaction opposée après la décision de l'UEFA. Suite aux violences de la semaine dernière, les clubs de Lyon et de Beşiktaş sont exclus de toute compétition européenne. Condamnation avec sursis. Le club turc la qualifie de scandaleuse et de partiale. Le président de l'OL, de son côté, évoque une décision équitable. Il y a du rugby ce soir. Castres reçoit le Stade français à 20h45. Match en retard de la 21e journée. La rencontre devait au départ avoir lieu en mars, en plein contexte de fusion entre le Stade français et le Racing 92. Les joueurs parisiens s'étaient mis en grève. Et puis, si vous avez un télescope, vous pouvez peut-être voir un astéroïde cette nuit. Ce gros objet frôle notre Terre. Alors, frôler au sens des astronomes, il passe à 1,8 km de nous. Il fait 600 mètres de large et ne présente aucun danger, assure la NASA. Nous voilà rassurés. Il est 20h33, on retrouve les informés.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, les voici, les voilà, dégustant l'actualité comme une pomme d'amour à la foire du trône. Hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Maud Guillaumin, journaliste politique, contributrice à Atlantico, également Éric Métou de L'Express, le communicant Franck Tapiro et Jean-Pierre Mercier, porte-parole de Nathalie Arthaud, candidate de Lutte Ouvrière. C'est la magie des élections. On fait des sondages pour savoir qui vote quoi et d'autres pour savoir qui ne vote pas quoi. Une phrase bien compliquée que nous simplifierons par en disant oui, l'abstention risque d'être forte dimanche prochain. Selon une étude, cette abstention pourrait approcher les 35%. Alors du jamais vu dans un scrutin présidentiel qui d'habitude mobilise fortement. Si l'on ne sait pas à qui profite cette abstention, eh bien on sait qu'elle concerne en majorité les jeunes électeurs et qu'elle ne concerne pas toujours un désintérêt pour le scrutin, mais qu'elle pourrait être une démarche politique. En tout cas, aller voter ou pas, eh bien on a interrogé certaines personnes. Et c'est vraiment le flou total. Hein.
J'ai voté avant pour la gauche, pour la droite, et en fin de compte, j'ai jamais été contente de leur fait, etc. Surtout pour Hollande.
Je vote Macron, j'ai toujours voté gauche. J'ai voté Hollande, il l'a trahi, c'est tout.
Que ce soit la droite ou la gauche, que ce soit le Front National, je crois qu'ils sont tous dans le même pot, oui, pour moi.
Donc, quelle est votre préférence ?
Moi, le Front National.
Voilà, donc ils sont tous dans le même pot. Voilà, parole d'électeurs ou de non-électeurs. Alors, Maud Guillaumin, ce qui paraît assez étonnant avec cette histoire d'abstention qui pourrait être forte, ou d'indécis également qui est assez forte hein, d'ailleurs, c'est qu'il y a quand même 11 candidats. Il y a 11 programmes, il y a des profils différents. On se dit quand même de ne pas réussir à faire un choix. C'est quand même, il y a un véritable malaise démocratique quand même là.
Alors j'entendais une dame justement dans un micro-trottoir qui disait qu'il faudrait qu'elle prenne un tout petit peu de chaque candidat pour avoir son candidat idéal. Je pense que aussi la différence c'est qu'ils sont tous dans un mouchoir de poche. Pourquoi ? Parce que cette fois, contrairement par exemple à 2007 où il y avait vraiment un débat de fond sur des questions fortes comme le pouvoir d'achat, l'identité nationale, ou en 2012 où là vraiment c'était continuité ou pas de Nicolas Sarkozy, là en fait il n'y a pas vraiment de thématique très forte qui se dégage de chacun d'eux.
Mais est-ce qu'à votre avis, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, finalement, c'est au départ, on a vu quand même des candidats avec des véritables programmes, François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, même Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, et finalement, c'est le 26 janvier, l'affaire Fillon, qui a fait qu'on n'a pas parlé de ces programmes.
Alors, il est vrai que c'est sûr que le problème des affaires est venu entacher tellement tous les candidats que même ceux qui avaient la foi, il faut quand même bien voir qu'après les primaires des Républicains, les gens de droite étaient vraiment à fond. Ça y est, ils allaient tous gagner. Ils voulaient tous participer à la campagne. Vous les avez vus après la première fois que le Canard Enchaîné a sorti l'affaire. Waouh ! D'un seul coup, c'était plus les mêmes. Donc, en effet, c'est venu casser d'un seul coup la dynamique. Où c'est vrai que moi, personnellement, j'ai trouvé que avec les deux primaires, cette campagne où vraiment je m'attendais à ce que ce soit très mou, je me suis dit ah ben en fait, ça va peut-être être une belle campagne. Et voilà. Et c'est en effet venu tout casser. Mais je pense que les programmes n'étaient pas assez forts, en fait, derrière les candidats.
Ah, vous trouvez,
je pense, en fait, que c'est parce qu'ils n'étaient pas assez portés directement.
Éric Métou, vous pensez, vous aussi, que les programmes, finalement, n'étaient pas assez forts? Quand même, on a vu, quand même, des idées bien différentes entre un revenu universel et par exemple, François Fillon, qui fait une sorte de révolution conservatrice, comme il a dit, ou libérale. On voit vraiment des oppositions.
Non, c'est la présidentielle. C'est pas les programmes qui font l'élection. D'accord. C'est les hommes Et c'est les hommes qui sont pas assez forts. Et le seul qui est un petit peu fort, parce qu'il a du charisme, parce qu'il a du bagou, parce que il a emporté l'adhésion pendant les débats, c'est Mélenchon. Et c'est
et
Mélenchon
Marine
qui
Le Pen,
monte. Marine Le Pen a fait, je suis assez d'accord avec, avec vous, elle a fait une très mauvaise campagne, elle a fait des très mauvais débats, elle est pas sur ses thématiques, même sur ses thématiques, elle s'en sort pas. Le seul qui fait, de manière, enfin, presque comme un acteur, une bonne campagne, c'est Mélenchon. Mmh. Après, les programmes, je veux dire, il y a des grands blocs, mais enfin, on sait grosso modo que Fillon va couper dans les fonctionnaires, que Nathalie Arthaud va demander à ce que on privatise, qu'on nationalise certaines entreprises,
ah oui,
pardon. Voilà, c'est assez connu. Même Macron au milieu, c'est un social-démocrate. Enfin, c'est quelque chose d'assez traditionnel et classique. On sait où il est. Après, c'est pas le problème. C'est la Ve République, c'est la présidentielle. Et franchement, on a des candidats qui sont assez misérables.
Alors justement, Franck Tapiero, cette abstention, cette indécision quand même qui est assez forte à 4 jours du premier tour, elle est due à quoi pour vous? Est-ce que finalement, il y a aussi une abstention, une démarche politique derrière cette abstention?
Excusez-moi, mais il y a un petit hiatus quand même très important. Abstention, c'est pas indécision.
Ah non, bien sûr. Non,
mais c'est très important. Je crois qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'indécision que d'abstention. On le verra dimanche. Je suis absolument convaincu que cette campagne, finalement, passionne les Français. C'est bon, on se passionne pour la politique depuis des années. Et on espérait que cette campagne soit une campagne des grandes idées, etc. Bon. Déjà, pour avoir une grande idée, il faut aussi être porté par des grandes personnalités. Et je suis totalement d'accord avec Céline Eric. Grande personnalité, là, on a de nouvelles personnalités. Macron, d'ailleurs, est le premier qui a sonné un peu la charge de voilà, je suis un homme nouveau avec des idées nouvelles. Et au moins, c'est lui qui a fait exploser quelque part un peu ce clivage. Et aujourd'hui, ça a déstabilisé. On voit bien à droite, c'est le troisième homme qui a gagné. À gauche, pareil. Mélenchon qui sort de nulle part avec un nouveau personnage. C'est un formidable comédien. Tribun peut-être, mais un comédien. Le plus grand produit marketing de ces 25 dernières années. Et il a réussi à faire passer son message. C'est extraordinaire. Puis d'ailleurs, d'autres candidats, je ne dis pas des petits, d'autres candidats qui essaient de faire passer leur voix. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop de choix.
C'est quoi? Ah d'accord, il y a trop de choix.
Mais c'est quoi? Mais oui, parce qu'avant, il y avait le choix entre deux, puis un troisième qui était l'outsider. Aujourd'hui, il y en a quatre qui ont la même possibilité de se retrouver au second tour. Trop de choix, tu le choix. Et c'est la première fois que les gens se trouvent dans une indécision totale de se dire, je veux peut-être aller voter, je veux aller voter. Ou alors, je vais vraiment aller voter. Mais ils se disent aujourd'hui, je ne sais pas encore pour qui. C'est
alors,
ça le danger.
Jean-Pierre, merci. Vous, comment vous le voyez, justement, cette abstention, peut-être volontaire de certains, en disant, est-ce que pour vous, c'est un ras-le-bol de la classe politique, ou c'est vraiment une histoire de programme d'hommes, ou c'est un ras-le-bol général de la classe politique, pardon, plutôt?
Je crois que c'est une abstention qui est profonde, qui est volontaire. Moi, j'entends autour de moi, que ça soit au boulot, dans le quartier, des gens qui disent, des travailleurs qui disent, avec la droite, on se fait avoir. C'est tout pour les patrons, tout pour les riches, et on nous fait les poches. Quand c'est la gauche, c'est exactement pareil. J'en ai marre. Ils auront plus ma voix. Voilà. Et le problème, c'est que un certain nombre de travailleurs ont compris que ça soit la gauche ou que ça soit la droite, c'est toujours une politique pour les patrons et c'est toujours des sacrifices pour eux, pour les travailleurs. Mais ils ont même réussi, les Hollande, les Sarkozy et compagnie, réussi à ce que ces travailleurs-là, ils se baillonnent, parce que s'abstenir, ça veut dire ne pas dire son mot, ne pas dire son opinion, ne pas dire même sa révolte, sa colère. Et moi, j'appelle vraiment les travailleurs justement à dire, on veut plus de vous, on veut plus de vos politique, au moins je vote pour mon camp, pour mes intérêts de travailleurs. Alors évidemment, je vote pour Nathalie Arthaud et puis le camp des travailleurs.
Même si vous ne donnez pas de consigne de vote pour le second tour, jamais généralement.
Non, c'est pas vrai. On en a donné en fonction des situations.
D'accord, en fonction des situations. Donc on verra bien ce qui se passe ensuite. L'info à 20h40, Pierrick Bonhomme.
Plusieurs centaines de postes supprimés chez le géant de l'énergie Engie. En tout, 618 salariés seront impactés en France, en Belgique et au Royaume-Uni. Plus de 400 dans l'Hexagone. Ces suppressions de postes interviendront dans le cadre de départs volontaires, de mobilités internes et de retraites anticipées. D'ici la fin de l'année prochaine, le groupe est en pleine restructuration avec un plan d'économie sur 3 ans. 8 associations lancent une procédure pour faire arrêter le chantier du réacteur nucléaire EPR de Flamanville dans la Manche. Elles ont déposé un recours gracieux, c'est le nom de la procédure, auprès du Premier ministre. Objectif, faire annuler le décret autorisant la création de l'EPR. Fin mars, France Info vous révélait que l'autorité de sûreté nucléaire avait constaté de nombreux écarts à l'usine du Creusot en Saône-et-Loire, là où a été fabriquée la cuve de l'EPR. La France a des preuves que Bachar al-Assad a utilisé l'arme chimique contre son propre peuple à Khan Cheikhoun, affirmation du ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault ce soir dans Questions d'info sur LCP en partenariat avec France Info. Selon le patron du Quai d'Orsay, les services de renseignement français dévoileront des éléments dans les prochains jours. L'attaque de Khan Cheikhoun a tué 87 civils le 12 avril dernier. La principauté de Monaco renforce ses mesures de sécurité pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions. Ce soir, les Monégasques reçoivent le Borussia Dortmund de 8 jours après les explosions qui ont frappé le bus des joueurs allemands juste avant le match aller. Monaco-Borussia Dortmund, coup d'envoi qui sera donné dans une dizaine de minutes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors dimanche, ce sera le premier tour de la présidentielle. Et s'il est trop tôt pour faire le bilan de cette campagne, notamment parce qu'il y a un deuxième tour, enfin normalement, hein, on peut déjà faire un petit bilan de vocabulaire. Outre les expressions mises en examen ou « mais pourquoi j'ai voulu être candidat ?», l'une des images les plus utilisées est celle de l'antisystème, une sorte de virus hein, de l'antisystème qui s'est emparé des candidats. Et rares sont ceux à ne pas avoir adopté cette posture au moins une fois dans la campagne. Alors petite revue de déclaration antisystème, Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon.
Mais regardez-les ! Le système est en panique devant ce qu'il sent être le réveil du peuple.
Je suis devenu aussi le rebelle que le système n'arrêtera pas.
Les règles obsolètes et claniques d'un système politique, la vacuité de notre système politique, ce système, je le refuse.
Les gens sont excédés et je vous le dis. L'élection de 2017, c'est une élection coup de balai. Les gens vont aller avec leur bulletin de vote dégager tous ceux dont ils sentent qu'ils sont responsables de cette manière d'être.
Voilà, donc les quatre principaux candidats anti-système. Alors c'est pour ça que je me tourne vers vous, justement, Jean-Pierre Hessé, parce qu'à Lutte Ouvrière, vous-même, ce système, vous le dénoncez depuis très très longtemps. Qu'est-ce que vous en pensez de cette posture anti-système des candidats?
Oh, c'est une posture marketing. Voilà, Trump, il a gagné les élections sur ce thème-là. Donc du coup, les principaux responsables politiques pensent qu'en prenant ce thème-là, ils vont pouvoir faire des voix, ils vont pouvoir ramasser des voix. Simplement, je dis là, Nathalie Arthaud, elle, c'est la seule candidate communiste dans ces élections présidentielles. Et communiste, ça veut dire que l'on combat le système capitaliste. Parce que dire le système sans dire le système capitaliste, ça veut strictement rien dire.
Emmanuel Macron a utilisé le terme communiste pour décrire Jean-Luc Mélenchon.
Je pense que c'est un thème extrêmement fort. Jean-Luc Mélenchon est faux. Jean-Luc Mélenchon se réclame pas du tout du communisme. Non. Il se réclame de Mitterrand, il se réclame de Jospin. Ça lui va très bien et c'est tout à fait sa politique. Et s'il devait arriver au pouvoir, c'est ce qu'il referait ni plus ni moins.
Alors, Maud Guillaume, pourquoi finalement ce thème s'est imposé? C'est ce que dit Jean-Pierre Mercier. C'est parce que on a vu avec le Brexit, avec Donald Trump, finalement, des candidats anti-système, des postures anti-système qui ont marché. Et c'est pour ça que ça a été adopté.
Ah ben, je pense en effet que ce coup de balai quand même dont parle Mélenchon, il a quand même eu lieu déjà au moment des primaires. On l'a vu en effet avec Sarkozy, avec Juppé qui était balayé. Bon, bah c'est déjà quand même balayé des postures, voilà, des hommes qui étaient là depuis toujours. Alors vous allez me dire anti-système, bon, c'est vrai que ça fait rigoler de la part de Fillon qui est là depuis 81. Ça fait rigoler de la part de Macron qui a beau être un faux jeune, il a quand même été ministre, il a quand même été à l'Élysée. A fait l'ENA. Enfin, donc pour reprendre votre idée de système capitaliste, oui, en effet, il était banquier. Mais donc, du coup, pourquoi ils ont marché sur les plates-bandes? Parce que c'est vrai que c'était des plates-bandes d'extrême. C'était les plates-bandes de Jean-Marie Le Pen, bien avant Marine. C'était les plates-bandes donc, de l'extrême-gauche aussi. Pourquoi, petit à petit, le système que représentait directement toute la classe politique, de gauche à droite, pourquoi avoir marché là-dessus en pensant que ça pouvait être bien? Là, je me tourne vers le communicant. Là,
justement, le communicant Franck Tapiro, moi, j'ai une question à vous poser, très simple. C'est comment paraître anti-système quand on est dans le système? Comment
déjà,
je peux enlever...
L'absurdité totale, c'est que tout ça, ça fait partie du système, tout ce qui vient d'être dit. Et c'est la mode de quelqu'un qui appartient à un système de montrer qu'il est anti-système pour se différencier. Sauf qu'il ne suffit pas de le dire, déjà, il faut le prouver. Et deuxièmement, ils sont capables de tout pour créer une différence complètement artificielle. Le problème, c'est de se différencier. Mais on voit bien que ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que les mots perdent de leur sens quand ils sont répétés et martelés de la même façon et pour les mêmes propos. Et moi, je repère les mots caricature, système, média, vous, les journalistes. Il y a des phrases toutes faites qu'ont repris tous les candidats. C'est extraordinaire. Il n'y a plus, on va dire, de champ sémantique qui appartient à des candidats qui leur permettrait qu'on leur donne raison ou tort, mais au moins de se différencier, de se distinguer. Donc en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un système anti-système.
Mais
donc
c'est vraiment le compliqué.
Système qui se mord la queue, puisqu'au oui. final, ils répètent tous la même chose. Il y a l'aspect moutonnier ou les marronniers, mais qui se répètent en permanence. Et je suis sidéré par leur manque de créativité, leur manque de prise de risque, et d'inventer un petit peu autre chose, ou alors de le dire d'une autre façon, d'une façon différente, qui marque les esprits. Mais là, je suis incapable de vous dire qui a parlé de système et d'anti-système. Thèmes sont tous lénifiants sur ce thème-là.
Et Éric Métou, pour vous, voilà, c'est vrai que c'est un thème qui s'est imposé. C'est vrai que quand on, anti-système, ça a été je sais pas si c'est tous des fans de Trust, mais on avait l'impression qu'ils avaient écouté cette chanson pour dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans mon discours.
Antisocial.
Ah ouais.
Je perds mon sang-froid.
Exactement.
Cela dit, ils l'ont perdu à plusieurs reprises. Mais cela dit, ça pose quand même un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, la démarche au départ, c'est de dire Trump a été élu, le Brexit, il y a un malaise en France, il y a un malaise économique, il y a un malaise social. Et effectivement, est-ce que c'est un système? Est-ce que c'est les institutions? Est-ce que c'est une mécanique générale? Est-ce que c'est des rapports sociaux qui ne fonctionnent pas? Moi, contrairement à vous, je serais plutôt du côté CFDT. Je pense qu'on se parle pas assez dans ce pays et qu'il faudrait qu'on se parle plus. Mais on est quand même dans une impasse. On est au bout d'un fonctionnement. Et ça, le fait qu'ils le reprennent en boucle, même si ça veut rien dire, enfin, c'est ridicule d'entendre Fillon dire qu'il est un rebelle. Enfin,
c'est un rebelle.
C'est à pisser de rire quand même. C'est truc le plus drôle que j'ai entendu ce soir, mais on est quand même au bout de quelque chose. Alors, est-ce que ça va passer par un changement institutionnel? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit changer de République? Est-ce qu'on doit changer les rapports sociaux, effectivement? Est-ce que les patrons doivent plus parler aux travailleurs, qu'ils doivent plus parler aux patrons, qu'ils doivent plus parler aux journalistes, qu'ils doivent plus parler aux politiques? Je sais pas, mais oui, on est clairement dans un système bloqué.
Jean-Pierre Arsien, quand vous entendez ça justement sur le dialogue, je vous ai vu tout à l'heure, vous m'êtes d'accord.
Dialogue social n'existe pas entre un patronat et puis les travailleurs et puis les syndicats. C'est une évidence. Quand vous êtes sur une base d'exploitation, pour obtenir quelque chose d'un patron, il faut lui arracher. C'est par le rapport de force. Et je suis bien placé pour le savoir. Vous savez, là, j'étais à PSA Poissy, l'usine où je travaille. Il y a des sous-traitants qui sont en train de manifester parce qu'ils sont en train de se faire étrangler par la direction de PSA et la direction de Renault. S'ils bloquent pas l'usine de PSA Poissy, s'ils se font pas entendre, s'ils manifestent pas, s'ils imposent pas un rapport de force, ils n'auront rien du tout.
Jean-Pierre Mercier,
ça marche comme
Jean-Pierre
ça.
Mercier, c'est vrai qu'il y a toujours une question qu'on peut se poser par rapport, par exemple, aux candidatures de Lutte Ouvrière ou même à côté du NPA. Est-ce que c'est logique pour un parti révolutionnaire de se présenter? Est-ce que c'est pas cautionner finalement ce système?
Non, on ne cautionne pas. On nous donne la parole, on nous donne l'occasion dans ce pays de pouvoir parler librement, pas assez à notre goût, mais ça c'est pas étonnant. Mais en tout cas de pouvoir dire ce qu'on veut, ce qui nous paraît important de défendre des exigences pour le monde du travail qui nous paraissent incontournables dans la situation actuelle. On serait bête de laisser passer l'occasion et de défendre des idées, des perspectives qui nous paraissent utiles quand les travailleurs retrouveront confiance dans leur force.
Maud Guillemin, justement, vous la comprenez, vous, cette logique c'est assez unique en Europe, d'avoir deux partis révolutionnaires, trotskistes, qui se présentent à la présidentielle.
Ah ben, est-ce que c'est pas la beauté de la France? Du coup, forcément, en effet, sinon on vous entend jamais. Hein. Déjà, on vous entend déjà pas beaucoup en tant que
dans les manifestations.
Dans les manifestations, Jean-Pierre Mercier, on l'entend.
Dans les manifestations, vous entend. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, après tout, c'est quand même une force qui aujourd'hui permet de certainement aux autres partis aussi de réfléchir à ce qui se passe parce qu'on n'entend plus assez la base ouvrière. Mais là, je reprends ce que disait Éric Métou. Est-ce que vous représentez vraiment la base ouvrière aujourd'hui par rapport à une Marine Le Pen? C'est bien le problème et ça, vous n'y répondez pas toujours.
Alors ça, on va en parler de Lutte Ouvrière dans un instant avec le programme justement que vous défendez pour cette présidentielle. L'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
Le bras de fer entre opposants et partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro dans les rues de Caracas, défilé sous haute tension après la mort de 6 manifestants ces derniers jours. Il s'agit de la 6e mobilisation depuis début avril pour les anti-chavistes qui dénoncent un coup d'état institutionnel de leur président depuis qu'il a réduit les pouvoirs du Parlement. Des milliers de manifestants dans les rues à la mi-journée au Venezuela et déjà un mort blessé par balle. On ne sait pas d'où venaient les tirs. La commission électorale turque rejette ce soir tous les recours déposés pour irrégularité par l'opposition. 16 militants de gauche arrêtés à Istanbul en marge de manifestations depuis la victoire du oui au référendum donnant plus de pouvoir au président Recep Tayyip Erdogan. Des milliers de personnes se rassemblent quasiment tous les jours depuis dimanche dans des quartiers d'Istanbul connus pour leur opposition au président islamo-conservateur. Les députés britanniques valident la proposition de la première ministre Theresa May de tenir des législatives anticipées le 8 juin prochain. La conservatrice fait le pari de renforcer sa majorité au Parlement pour avoir les mains libres dans ses négociations sur le Brexit. Theresa May devait obtenir le soutien des deux tiers des députés. Mission accomplie puisque 522 parlementaires ont voté pour, 13 seulement contre. Encore deux Français en lice au tournoi de tennis de Monte-Carlo, Lucas Pouille et Adrian Manarino, qui s'affronteront demain en huitième de finale. Il y aura donc forcément un Français en quart.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons avec l'invité de ce soir, donc Jean-Pierre Mercier, entre autres, donc porte-parole de Nathalie Arthaud, du poids, justement, du monde ouvrier. Qu'est-ce que vous répondez, justement, à Maud Guillaumin, Jean-Pierre Mercier, là, qui vient de vous dire, comme Éric Métou, sur, finalement, ce que représente aujourd'hui lutte ouvrière au sein d'un monde ouvrier?
Bah, il faut pas confondre le fait électoral et le fait social. Vous savez, il y a des périodes dans l'histoire où les travailleurs, justement, ils perdent les illusions, ils perdent l'électoralisme, ils perdent le fait que par le bulletin de vote, en ayant un sauveur suprême, les choses vont pouvoir aller, et puis ils prennent leur affaire en main. Et c'est des périodes comme mai 68, comme juin 36, comme la Commune de Paris. Vous voyez, c'est des périodes où la société, elle est complètement bouleversée, où l'écrasante majorité de la population, que sont les travailleurs, eh ben, ils décident de tout arrêter, ils décident d'imposer par la force, par un rapport de force, leurs revendications, leurs exigences pour que ça change véritablement pour eux. Alors,
donc après, ça, c'est votre démarche à lutte ouvrière.
Bien sûr. Après que les idées de Marine Le Pen, elles prennent de l'ampleur, elles prennent de l'importance, c'est pas étonnant. Le balancier, au niveau des idées, il part à droite. Toutes ces idées nationalistes, ces idées patriotiques, chauvines, le produisons français. Du coup, avec des Français, ça a été la gauche qui a permis et qui a implanté ces idées-là. Quand je dis la gauche, c'est les directions des partis socialistes et des partis communistes qui ont fait la part belle à ces idées qui sont extrêmement réactionnaires et qui sont extrêmement nuisibles pour le monde du travail. Alors après, qu'en pleine crise économique, que à la fois quand vous regardez les différentes séquences électorales, les différentes séquences gouvernementales, à chaque fois qu'il y a eu la gauche au pouvoir, on a vu derrière une montée du score électoral du Front National. C'est pas étonnant. Quand vous faites des promesses et que de toute façon vous savez pertinemment que vous allez pas les tenir, mais au contraire vous allez faire tout le contraire parce que vous êtes là pour servir les patrons, bah c'est évident que derrière, celle qui ramasse la mise, c'est Marine Le Pen. Alors nous, on le combat justement en se présentant aux élections pour dire justement que quand on est un travailleur, on ne peut pas voter pour Marine Le Pen, c'est se tirer une balle dans le pied, et c'est en retrouvant le chemin des luttes qu'on pourra faire reculer ces idées réactionnaires.
On ne vous entend pas quand vous dites ça.
Là, on vous entend pas.
Franck Tapiero, tout à l'heure, vous en parliez en disant on ne sait pas quel est le vocabulaire des candidats. C'est vrai que là, ce vocabulaire, on l'a entendu depuis très longtemps. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, alors c'est artificiel, mais c'est vrai que les affiches, par exemple, de lutte ouvrière, ne changent pas. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, la manière, le graphisme, c'est par exemple toujours les mêmes par rapport aux autres candidats.
Non, ça, c'est pas vrai. Le graphisme, il a évolué.
Mais souvent, on vous dit, par exemple, le programme ne change pas beaucoup de lutte ouvrière.
Bien sûr, pourquoi regardez l'explosion du chômage. Est-ce que ça a changé, le chômage? Oui, ça a changé, ça s'est aggravé, ça s'est multiplié. Aujourd'hui, c'est pas la menace terroriste qu'on a dans le crâne quand on est un travailleur, c'est est-ce que je vais garder mon boulot ou pas, est-ce que je vais me faire virer aujourd'hui ou pas.
Sur des sujets comme l'écologie, moi j'ai noté une phrase chez vous, c'est les problèmes écologiques illustrent l'urgence qui a enlevé les leviers de commande de l'industrie des transports aux groupes privés. Alors ça c'est ce que vous dites dans le programme, mais il y a pas de solution concrète véritablement aux groupes privés. C'est-à-dire, une fois qu'on aura enlevé aux groupes privés, il n'y aura plus de pollution.
Il faut que des énergies aussi dangereuses ou aussi problématiques que le nucléaire, par exemple, si on les laisse dans les mains du capital privé, si on les laisse dans les mains d'un groupe d'entreprises, de fonds de pension qui n'ont que à l'esprit de faire du profit, de la rentabilité, c'est sûr qu'on court à la catastrophe.
Vous fermez Flamanville et vous mettez 2000 personnes au chômage, y compris les sous-traitants.
Avec bienveillance de vous donner un conseil de communicant. Le problème, c'est que vous êtes le seul parti qui, depuis X années, je ne sais même plus combien, 30, 40, 50 ans, commence tous ses discours par travailleuse, travailleur.
Pour une fois, jamais, vous l'avez bien dit. Vous l'avez bien dit. Travailleuse, travailleur.
Oui, je le dis toujours que de cette façon-là. Mais jamais française, français.
Voilà. Alors, si on peut en débattre, justement, vous expliquer en 30 secondes.
Allez-y,
parce qu'on s'adresse. Parce que le mot travailleur a une connotation politique. Française, oui. Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'adresse à la fois à la famille Peugeot, à Madame Bettencourt, oui. À Arnaud, et puis aux salariés et aux travailleurs.
Non.
La France, c'est pas ça. Nous, on s'adresse aux travailleurs, on s'adresse aux chômeurs, on s'adresse aux retraités, à ceux qui fabriquent le profit, à ceux qui font tourner la société.
Juste pour dire que française, français, travailleuse, travailleur. Encore une fois, si vous vous adressez à un public très restreint, ne vous étonnez pas que vous ayez un chiffre restreint.
Et mes camarades qui sont immigrés, la nationalité française, qui travaillent, qui transpirent avec moi, je m'adresse comment à eux? Bien sûr qu'on s'adresse au camp des travailleurs, c'est-à-dire qu'on soit français, immigré, avec papier ou sans papier.
C'est toujours faible, malheureusement.
Vous savez, quand j'ai manifesté contre la fermeture de l'usine d'Aulnay, on avait un slogan, c'était interdiction des licenciements, aucune usine ne doit fermer. Eh ben, je peux vous dire que ce slogan, il était majoritaire dans l'usine.
Merci beaucoup Jean-Pierre Mercier d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Maud Guillaumin. Je rappelle votre dernier livre, alors c'est autre chose, c'est Jackie, les 4 jours qui ont changé sa vie aux éditions Archipel. Merci à Franck Capiro, merci Éric Métou, la Une de l'Express cette semaine.
Où vivent les candidats des châteaux, des manoirs,
Très bien, voilà. À découvrir en tout cas dans l'Express. Il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous.
Pour le Classico au programme ce soir.
Et on va bien sûr vivre en direct le quart de finale retour de Ligue des Champions entre Monaco et Dortmund. Monaco qui mène déjà 1-0 grâce à qui? Devinez, Kylian Mbappé. Victoire monégasque déjà 3-2 à l'aller. Une semaine aussi après ces explosions qui ont frappé le bus du Borussia. On va évoquer aussi Lyon et le Beşiktaş désormais en sursis après les graves incidents de jeudi dernier. Et puis le match très beau mais très polémique hier soir entre le Real Madrid et le Bayern Munich.
Le Classico, votre débat sport, c'est dans quelques minutes sur France Info.